Nous allons donc continuer aujourd'hui ce que nous avions commencé au début, enfin la rentrée de septembre. Vous vous souvenez que j'avais annoncé une série d'études sur les différents miracles que Jésus a accomplis et qui sont rapportés dans l'évangile de Jean. Je rappelle que les évangiles, les quatre évangiles, rapportent beaucoup de miracles que Jésus a accomplis. D'ailleurs, il est toujours utile de lire cette phrase de conclusion, en quelque sorte, de l'évangile de Jean. Jean raconte sept miracles accomplis par Jésus pendant son ministère. Et après avoir écrit son évangile, Jean dit « Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans cet évangile. » Mais ce qui s'y trouve a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Donc nous voyons encore une fois, et il est bon de le relire, même à chaque fois que nous parlons d'un miracle accompli par Jésus, il est bon de rappeler que si l'évangéliste Jean, comme les autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ont rapporté un certain nombre, voire un grand nombre de miracles accomplis par Jésus pendant les environ 3 ans de son ministère, eh bien, ces miracles sont racontés, non pas en quelque sorte pour épater les gens, pour les impressionner, pour leur dire que Dieu est un Dieu spectaculaire, ou, excusez-moi l'expression, un Dieu de spectacle, car ce n'est pas ça du tout, la nature de Dieu d'abord. Même si Dieu est capable de faire les choses les plus spectaculaires, et on en voit quelques-unes dans la Bible, mais le but, c'est que en voyant et en lisant le récit des miracles que Jésus a accomplis en quelques 2-3 ans, nous puissions croire que Jésus est vraiment celui que Dieu a choisi, le Messie, le Christ, et qu'en croyant en lui, nous découvrions une nouvelle vie, la vie que Christ donne. Voilà donc le but des miracles. Pourquoi les miracles sont racontés? C'est pour nous bien nous montrer que Jésus est celui que Dieu a choisi, qu'il a appelé son Fils, et par lequel nous pouvons vivre une vie nouvelle. Alors, nous avons déjà vu plusieurs miracles. Nous arrivons aujourd'hui sur les 7 miracles racontés par Jean au 4e. Et j'aimerais rappeler ce que nous disions au tout début de notre étude, je crois que c'était au mois de septembre, à savoir que chacun des miracles que Jésus a accomplis et qui sont racontés dans l'évangile de Jean semble avoir une signification particulière, et c'est pour cela que Jean a sélectionné ces 7-là. Bien sûr, encore une fois, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. C'est Jean qui le dit, et les autres évangiles le montrent. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais Jean a sélectionné 7 miracles. Un professeur qui enseigne dans une école de la Bible, un pasteur américain, a un jour fait une étude approfondie de ces 7 miracles, et il a émis cette hypothèse que chacun de ces miracles, représente la maîtrise de Dieu sur un élément particulier de la vie ou de la nature. Vous vous rappelez, quand on avait étudié le miracle de l'eau changée, transformée en vin, nous avions dit que, en suivant cette explication, que ce miracle de l'eau changée en vin montre que Jésus est le maître de la qualité. Ensuite, quand nous avons vu l'histoire de la guérison du fils de l'officier royal, qui était venu voir Jésus, alors qu'il habitait à 40 km, Jésus lui a dit, à 40 km de chez lui, « Va, rentre chez toi, ton fils est vivant, ton fils est guéri. » Et nous avions dit que ce miracle montrait que Jésus est maître de la distance. Peut-être que cet après-midi, vous pourriez vous dire, « Eh bien, moi, j'aimerais que Dieu intervienne dans la vie de ma mère qui habite à tant de kilomètres. » Eh bien, Jésus est capable d'intervenir parce qu'il maîtrise toutes les distances. Dieu est partout. Il est capable d'agir tout de suite. Et même si vous disiez, moi j'ai mon frère qui est aux États-Unis ou au Vietnam, j'aimerais qu'on prie pour lui, Dieu peut intervenir à distance. C'est ce qu'enseigne cette histoire. Nous avons vu la dernière fois la guérison de l'homme qui était paralysé, vous vous rappelez, qui était au bord de la piscine, qui attendait que l'eau bouge pour descendre et pour être guéri. Eh bien, nous avons vu que cet homme qui était malade depuis 38 ans, cette guérison de cet homme a montré que Jésus était le maître du temps. Peu importe depuis combien de temps une personne souffre d'une maladie ou d'une situation douloureuse ou d'un problème apparemment sans solution, peu importe depuis combien de temps, Dieu peut intervenir. Vous savez que souvent, sur la terre, les gens disent « Oh ben vous savez, ça fait tellement longtemps que je souffre, ça fait tellement longtemps que c'est comme cela, je pense que ça restera toujours comme ça, il vaut mieux que je m'adapte. » Eh bien, l'Évangile est là pour dire « Non, ce n'est pas indispensable, parfois il faut s'adapter, bien sûr, aux difficultés ou aux adversités, mais Dieu est capable aussi d'intervenir pour y mettre un terme. » Cet après-midi, nous allons donc réfléchir quelques minutes sur ce miracle, un autre type de miracle. Alors, je pense que ce ne sera pas difficile de deviner, de trouver quel est le domaine que Jésus maîtrise dans ce miracle. 5000 hommes, alors excusez-moi, on ne parle pas des femmes et des enfants, parce que c'était la façon d'écrire à l'époque. Hein, c'est aujourd'hui différent. On ne dirait jamais aujourd'hui, il y avait une grande fête, il y avait beaucoup de monde, il y avait au moins 5000 hommes. Aujourd'hui, on dirait, mais il n'y avait pas de femmes, pas d'enfants. Donc, c'était la façon d'écrire à l'époque. Ce qui nous fait penser à une chose, c'est que s'il y avait environ 5000 hommes, il y avait peut-être à peu près 5000 femmes, condition qu'ils soient tous avec leurs femmes, mais il pouvait y avoir leur mère, il pouvait y avoir leurs sœurs, leurs amis, et il y avait des enfants. On dit généralement que 5000 hommes, ça pouvait vouloir dire 15 à 20 000 personnes en tout. Parce que nourrir 5000 personnes, c'est une chose, en nourrir 20 000, c'en est une autre. Vous savez, quand on invite des gens en général, on invite un certain nombre, et on essaye de faire en sorte que ceux qui ont dit qu'ils venaient viennent, et que ceux qui ont dit qu'ils ne pourraient pas venir ne viennent pas. Parce que si tout d'un coup, ou alors parfois il arrive que des amis viennent vous voir, vous en avez invité par exemple 10, et puis que quelqu'un s'est permis d'amener aussi quelqu'un d'autre, sans prévenir. Alors on s'excuse au départ quand on arrive, on dit « Excusez-moi, je me suis permis d'inviter aussi. » Et bon, une personne en plus, ce n'est rien. Mais de 5 à 20 000, ben, je sais bien qu'on n'invite jamais 5 000 personnes. Mais dans un rassemblement, si on prévoit 5 000 personnes et qu'il en arrive 20 000, cela pose des problèmes. Bien sûr, et nous le verrons dans quelques instants, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pour les disciples, ce pouvait en être un. Mais pour Dieu, ce n'est jamais un problème. Ce miracle des pains et des poissons, alors nous l'avons lu tout à l'heure, je rappelle qu'il y a d'abord un contexte à cette histoire. Jésus prêchait, dans les chapitres précédents, on voit que Jésus prêche, et à chaque fois que Jésus prêche, parce qu'il prêche avec conviction, parce qu'il prêche avec autorité, il donne vraiment l'impression à ceux qui l'entendent qu'il maîtrise parfaitement le sujet, quand il parle d'un sujet, qu'il sait vraiment de quoi il parle. Quand il parle de Dieu comme vraiment quelqu'un qui le connaît. Et tout cela, nous le voyons dans l'Évangile, a surpris les gens de son temps, parce qu'ils étaient habitués à entendre des hommes religieux, des rabbins, des scribes, des gens qui enseignaient la loi de Dieu, et qui enseignaient cela, peut-être pas toujours en étant très convaincus, peut-être pas toujours en étant très enthousiastes. Alors que Jésus a montré tout le contraire. La Bible dit que les gens, en entendant prêcher Jésus, disaient après, « On n'a jamais entendu quelqu'un prêcher comme cela. » Et quand les gens voyaient Jésus guérir les malades et chasser les démons des corps de ceux qui en étaient possédés, les gens disaient, « Même les démons lui obéissent. » Jésus prêchait d'une manière extraordinaire, au sens littéral du terme. Et alors, donc, le contexte de ce miracle, c'est cette foule de gens, plusieurs milliers, peut-être même donc, comme nous le disions il y a un instant, 15, 20 000 personnes en comptant les femmes et les enfants qui sont là et qui l'écoutent. Et Jésus se rend compte qu'il commence à être tard. Ils sont peut-être dans la campagne, loin des villes. Et même s'ils ne sont pas très loin des villes, ou plutôt des villages, Jésus se dit, mais ces gens-là, tout à l'heure, il va falloir qu'ils mangent. Parce que même s'ils veulent reprendre la route et vous rappellerez sans doute, vous saurez sans doute qu'à l'époque, on voyageait principalement à pied. On voyageait principalement à pied. Par conséquent, pour aller d'un village à un autre, s'il y avait 10 km, il fallait bien compter entre 2 et 3 heures, plutôt 3 heures que 2, s'il y avait des enfants notamment. Donc, les gens, même s'ils avaient prévu de rentrer, sans doute de rentrer chez eux le soir ou pour la nuit, il fallait qu'ils marchent. Et avant de marcher, il fallait prendre des forces. Alors, nous voyons qu'il y a donc ce contexte de cette foule nombreuse, cette foule qui commence à être fatiguée. Jésus les voit. Et c'est à ce moment-là que, alors que l'un de ses disciples lui dit, « Mais Seigneur, où pourrions-nous acheter à manger pour ces gens ?» Vous savez que dans un village, il y a sans doute quelques magasins. Hein, quelques magasins pour donner à manger. Moi, nous habitons avec ma femme un village d'un peu moins de 3000 habitants. Il y a deux boulangeries et une épicerie. Puis je réfléchis en disant cela. Puis pour acheter à manger un peu plus loin, à 2-3 km, il y a des magasins, bien sûr. Mais le soir, s'il est tard, il n'y a plus beaucoup d'endroits pour acheter à manger. Dans un village, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Il y avait la nourriture prévue surtout pour les habitants du village. Mais une foule, tout d'un coup, de 20 000 personnes, cela pose un problème majeur. Comment trouver de la nourriture pour 20 000 personnes, alors qu'il y a un petit village à côté? Et à l'époque, les villages n'étaient pas des villages de 3, 4, 5, 10 000 habitants. Les plus grandes villes avaient parfois entre 5 et 10 000 habitants, maximum. Comment faire? C'est pourquoi Jésus, lorsque Philippe dit à Jésus, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Rien que du pain, sans parler d'autre chose. Un petit morceau de baguette, si on est en France, ça c'est pour les Français. Un petit morceau de baguette, une demi-baguette maximum, même un crouton, mais 20 000 croutons, enfin pas 20 000 croutons, mais 20 000 morceaux de pain, s'il n'y a pas que des croutons dans une baguette. Où trouver tout cela? Et Jésus va dire à Philippe une réponse extraordinaire. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Cette question avait pour but de mettre à l'épreuve Philippe. Elle avait pour but de mettre à l'épreuve Philippe. Et parce que comment faire pour donner à manger à tant de gens? Jésus dit, il est écrit ici, Jésus disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais il a voulu mettre Philippe à l'épreuve parce que Philippe était son disciple. Philippe était son disciple. C'est un peu comme lorsque Jésus s'est trouvé plus tard devant le tombeau de Lazare, en compagnie de Marthe, sa sœur, et de Marie. De Marthe et Marie, ses deux sœurs. Vous vous rappelez ce que dit Jésus lorsqu'il arrive devant le tombeau? Marthe et Marie devaient se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va là-bas? Peut-être parce que Jésus veut voir le tombeau, l'emplacement, l'endroit où c'est. Peut-être pour se recueillir, comme dans un cimetière. Et Jésus, lorsqu'il s'est trouvé devant le tombeau, a prononcé une parole qui, pour les hommes que nous sommes, était invraisemblable. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit devant le tombeau? Première chose qu'il a dite, enlevez la pierre. Parce qu'à l'époque, les tombeaux étaient creusés dans le roc et on roulait une grosse pierre devant en guise de porte pour fermer le tombeau. Puis on la scellait, la porte. Et Jésus dit, ouvrez le tombeau. C'est comme si on allait aussi bien, on disait, ouvrez la tombe. Seigneur, dit sa sœur, dit la sœur du mort, « Mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort, ça fait 4 jours qu'il est là, ça va sentir mauvais. » Mais Jésus disait cela aussi pour mettre à l'épreuve la foi de Marthe et Marie. Ici, nous voyons que Jésus dit, « Vous allez leur donner vous-même à manger. Mais Seigneur, nous n'avons rien. Comment peut-on nourrir une pareille foule? Non seulement nous n'avons rien, mais même si nous avions quelque chose, nous ne pourrions pas faire grand-chose, ils sont trop nombreux. » Et c'est à ce moment-là que l'un autre disciple de Jésus, André, le frère de Pierre, a apporté un petit renseignement. Il a dit, il y a ici un petit garçon, paraît que dans son panier, il est venu parce qu'il avait peut-être fait ses courses, sa mère l'avait peut-être envoyé en disant, tu vas acheter 5 pains et 2 poissons. Et puis, en revenant, il a vu de la foule, vous savez comment c'est, un petit garçon, une petite fille, il a vu du monde, il a voulu voir ce que c'était, et puis il a entendu Jésus, et il est resté. Et ce petit garçon a dans son panier 5 pains d'orge et 2 poissons. Alors bien sûr, ce n'était pas des baleines, ce n'était pas des énormes poissons, c'était peut-être des simples poissons, peut-être même, vous savez, des poissons comme des maquereaux, ou des, je n'allais pas dire des sardines, parce qu'une sardine, ça ne va pas loin, mais 2 poissons, c'est tout. Et alors, André, quand il dit cela à Jésus, il y a un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, il ajoute aussitôt, mais qu'est-ce que c'est que cela pour autant de monde ? 5 pains et 2 poissons, ça nourrit pas beaucoup de monde. Peut-être, d'ailleurs, en général, on fait en sorte qu'il y ait un peu plus de poissons et un peu moins de pain, peut-être. Parce que 5 pains d'orge et 2 poissons, même si les poissons sont grands comme ça, on ne peut pas nourrir une foule avec cela. Et André dit cela, mais on sent que chez André, il y a quand même un petit espoir. On a bien quelque chose, Seigneur. Mais André connaît Jésus. Il semble qu'André ait un peu plus de foi que Philippe, puisque Philippe dit, même si on avait 200 pièces d'argent, une pièce d'argent à l'époque, c'était le salaire journalier, le salaire quotidien d'un ouvrier, même avec 200 jours de salaire, ça fait quand même à peu près 6 fois 3, 7 fois 3, presque 7 mois de salaire. Bon, avec 7 mois de salaire, on peut acheter à manger. Encore faut-il trouver à manger. Et, comment il s'appelle ? Philippe semblait dire, même si on avait tout cet argent, on ne pourrait pas faire grand-chose, ils sont trop nombreux. Et André dit, mais on a quelque chose, c'est 3 fois rien, mais c'est, aux yeux de Jésus, quelque chose. La grande leçon de ce miracle, elle est toute simple, apparemment. Bien sûr, selon l'étude que nous menons, cette histoire montre que Jésus est le maître de la quantité, puisqu'à partir de 5 pains et 2 poissons, il va nourrir une foule de 15 à 20 000 personnes. Le miracle, il est là. Mais en même temps, je crois qu'il y a une grande leçon dans cette histoire, une leçon que l'on retrouve dans un certain nombre de textes de la Bible, je pourrais même dire dans toute la Bible. Il suffit d'avoir peu et de le mettre entre les mains de Dieu pour que ce peu puisse satisfaire de nombreux besoins. C'est une leçon que l'on retrouve très souvent dans la Bible. On pourrait dire, c'est la leçon, par exemple, d'une histoire bien connue, celle de David et Goliath. D'un côté, un géant qui mesurait peut-être au moins 2,50 m, si ce n'est pas 3 m, avec une carapace, une armure, une épée, et l'épée était peut-être proportionnelle à la taille du géant, et en face, un petit garçon qui avait peut-être 10, 12, 15 ans maximum, et qui a comme arme très destructrice, une fronde avec 5 cailloux. C'est fort peu. D'ailleurs, cela surprend un petit peu le roi Saül, et cela fait rire le géant Goliath, un enfant avec une fronde. Mais est-ce qu'on se moque de moi pour me mettre en face un enfant avec une fronde, moi le soldat, le guerrier qui fait peur à tout le monde? Et pourtant, l'histoire est toujours la même, la morale, la valeur spirituelle de l'histoire est toujours la même, avec un petit peu qui est donné, consacré à Dieu, Dieu peut faire de grandes choses. On retrouve cette même idée, par exemple, dans l'histoire du chef militaire Naaman et la petite servante qui était son esclave. Vous vous rappelez l'histoire de ce grand chef militaire, dans, je crois que c'est dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, où il nous est dit que ce chef militaire était très apprécié, très populaire dans ce pays, mais un jour il a contracté la lèpre et sa vie a basculé dans l'horreur, dans le drame. Et c'est parce qu'il y avait dans sa maison une petite fille, une jeune fille de 12, 13, 15 ans maximum, qui a osé lui dire qu'il y avait en Israël un prophète qui pourrait prier pour lui afin qu'il guérisse. Cette petite jeune fille par rapport à ce grand chef militaire a été l'instrument que Dieu a utilisé, juste avec ces quelques paroles, peut-être une phrase, deux phrases, trois phrases. Cela a suffi pour transformer la vie de ce chef militaire, très glorieux, très populaire, et d'obtenir sa guérison. Peut-être une des histoires les plus marquantes dans la Bible, c'est celle de Gédéon. Il y a peut-être longtemps que vous n'avez pas lu cette histoire. Gédéon était un homme qui appartenait à une famille très modeste en Israël. La tribu à laquelle il appartenait était la plus petite d'Israël. Et lui-même disait « Je suis le plus jeune dans la maison de mon père ». C'était donc vraiment le plus petit de tous, d'une certaine manière. Et pourtant, c'est à lui que Dieu a envoyé un ange pour lui dire « Va avec la force que tu as, c'est toi qui vas libérer Israël de ses ennemis ». C'est pourquoi Gédéon a répondu « Mais je suis le plus petit dans la maison de mon père, qui est la plus petite famille dans notre tribu, qui est la plus petite tribu en Israël ». Une façon de dire « Seigneur, pourquoi c'est à moi que tu t'adresses ? Et pourquoi pas au plus glorieux, plus valeureux soldat en Israël ?» Pourquoi ? Parce que Dieu voulait lui montrer que Dieu n'a pas besoin de la force des hommes. Il a juste besoin de leur foi et de leur obéissance. C'est toujours cette leçon que l'on retrouve dans toute la Bible. Dieu peut se servir de chacun de nous, qui que nous soyons, que nous soyons des diplômés des plus hautes écoles, que nous soyons héritiers de la plus grosse fortune, que nous soyons les hommes ou les femmes les plus intelligents, les plus doués de notre génération peut-être, ou que nous soyons les plus modestes, les moins riches, les plus effacés, les plus timides. Ce que nous apportons de tout cœur à Dieu, Dieu peut s'en servir. Gédéon a été utilisé par Dieu, et la Bible nous dit même que lorsque Gédéon a réussi à convaincre ses compatriotes, ils se sont rassemblés et ils se sont retrouvés à 22 000 personnes capables d'aller au combat. Mais Dieu a dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Et vous savez combien étaient les ennemis ? Au nombre de 135 000. Pour combattre contre 135 000 personnes, 135 000 soldats, Dieu a dit à Gédéon, 22 000 c'est trop. Alors, il a donné un test que Gédéon devait faire passer à ses soldats, et 12 000 sur les 22 000 sont partis, découragés. Et quand ils se sont retrouvés à 10 000, Dieu a dit, vous êtes beaucoup trop nombreux. où presque personne, en tout cas personne, à moins d'être invalide, n'aurait pu dire « Moi, je ne sais rien faire. Je ne sais pas faire grand-chose. » Alors, j'avais insisté et j'avais dit « Mais quels sont ceux qui savent se servir d'un balai ?» Si je posais la question, là, cet après-midi, quels sont ceux qui savent se servir d'un balai? Vous pouvez lever la main, ceux qui savent se servir d'un balai. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas faire le ménage après. Vous pouvez lever la main tranquillement. Ah, pas tout le monde. Tout le monde sait se servir d'un balai. Eh bien, c'était déjà un service à rendre dans l'Église. À la limite, j'avais dit, si quelqu'un peut dire cet après-midi, ou ce matin, c'était le matin plutôt, au culte, je me dis, si quelqu'un pouvait me dire ce matin, je n'ai aucune capacité, Dieu ne m'a donné aucun talent, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas riche, je n'ai aucune faculté intellectuelle. J'étais prêt à dire, je n'ai pas eu besoin de le faire, bien sûr, je dis, mais même si vous n'avez rien de tout cela, vous savez prendre un balai et vous en servir. Sinon, d'ailleurs, ce n'est pas difficile à apprendre. Nous avons toujours des capacités qui peuvent être utiles à l'œuvre de Dieu et à son Église. Nous pouvons donner de notre temps, donner de nos idées, donner de notre bonne volonté. Et Dieu saura, quoi qu'il en soit, se servir de cela. La morale donc de cette histoire, l'enseignement de ce miracle que Jésus accomplit, c'est que Dieu, avec peu de choses, peut faire des miracles. Dieu, avec peu de choses, si nous voulons simplement lui faire confiance et lui obéir, saura faire de grandes choses, il saura changer les circonstances, il pourra intervenir là où l'homme ne peut rien faire, parce qu'il est Dieu. Alors, ce miracle, encore une fois, a été écrit, a été rapporté par Jean, afin que nous croyions que Jésus est vraiment celui que Dieu a choisi, qu'il a envoyé, et que, en croyant en lui, nous ayons la vie en son nom. Que Dieu nous aide à vivre une vie toujours meilleure, une vie toujours plus belle, parce qu'il est capable de transformer trois fois rien en de grandes choses. Que son nom soit béni et que Dieu vous bénisse.